Hier, tu as vécu une journée de rêve, absolument, grâce aux gens de la base militaire de Bagotville, dans le cadre du festival aérien, en fait, le spectacle aérien international de Bagotville qui aura lieu en fin de semaine. On est la radio officielle, mm-hmm. radio partenaire. Vous avez d'ailleurs eu la chance pour plusieurs auditeurs de gagner au cours des deux dernières semaines un tour d'hélicoptère qui aura lieu durant le festival, puis les gens sont contents. J'ai jamais vu un concours fonctionner comme ça. La preuve que ce festival-là, ce spectacle-là, est extrêmement ancré pour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est tout le monde veut aller voir ça, oui, mais quand tu as la chance de participer, d'avoir une expérience de plus, une coche de plus, j'ai jamais vu autant de participation à des concours. Franchement, en 13 ans de radio, là, c'était vraiment intense. Et tu as pu le faire un petit peu avant tout le monde avec une expérience élargie de recherche et sauvetage.
Définitivement. J'ai eu l'expérience privilégiée à l'intérieur de vivre quelque chose que peu de gens ont la chance d'atteindre, même les militaires eux-mêmes de Bagotville. Et que je m'explique. On comprend que la base de Bagotville est une base principalement d'aviation. Et si on a à résumer, mettons, la base, on va systématiquement dire les F-18. Par contre, c'est beaucoup plus que ça. La base de Bagotville, il y a différentes escadres, différents corps et tout ça. Et à ce moment-là, différents escadrons, tu as des gens qui vont préparer, exemple, les bases dans des missions outre-mer.
Ce qu'on appelle l'escadron expéditionnaire.
Oui, je pense qu'on peut expliquer ça. On a bien des auditeurs qui sont là-dedans, c'est parfait. On a également, évidemment, tout ce qui touche les CF-18, mais c'est pas juste les pilotes. L'entretien, tout ce qui tourne autour de ça, c'est de la peau, hein, s'il vous plaît. Et il y a peut-être un escadron qui est moins représenté ou du côté image publique, mais en même temps, ils sont appelés à être déployés bien souvent au Canada. C'est ceux qu'on appelle les techniciens en sauvetage et recherche. Et ce qu'on appelle les SAR-Tech en anglais, c'est des méchants pétés, là. Pétés dans le genre, ça prend quelque chose de phénoménal pour être là-dedans. Autrement dit, t'as l'armée canadienne, l'armée de terre, l'infanterie, la réserve navale, puis t'as également l'armée de l'air où ce qu'on parle à Bagotville. Du côté de la recherche et le sauvetage, je crois que c'est divisé à trois places seulement au Canada. T'as Trenton, entre autres, t'as Bagotville et peut-être une autre place. Et ça, à ce moment-là, c'est quand on parle, entre autres, des hélicoptères comme les Griffons, les hélicoptères Cormorants, qui vont faire du sauvetage. Ça peut être du sauvetage en mer, mais du sauvetage également dans toutes les situations qui sont tannantes. Autrement dit, il y a quelqu'un qui se pète la gueule à quelque part ou qui est mal pris. Les policiers peuvent pas. Les secouristes de base peuvent pas en forêt. Ben, quand c'est rendu vraiment une problématique où ça prend les experts, ben, c'est eux autres.
Il y a une chaîne de priorité au Québec, hein?
Oui, tout à
appeler,
fait.
Les policiers appellent la Sûreté du Québec
c'est
en premier, puis après ça, une autre place. Puis si jamais, on s'en va vers ceux qui sont probablement les plus qualifiés.
Tu sais, ça peut être un accident d'escalade que quelqu'un est tombé dans une paroi rocheuse. C'est quelqu'un qui peut être en mer, dans une mer qui est agitée, qui n'est pas possible. Peut-être quelqu'un qui a perdu connaissance dans le bois, puis on n'a aucune foutue idée où c'est qu'ils sont. Ben c'est à ce moment-là qu'ils vont les chercher. Et les recherches et sauvetage, c'est comme une division ou un escadron, on parle du 439, je crois, où t'es militaire, puis à un moment donné, dans ton parcours militaire, tu peux postuler à ça. Mais n'entre pas là-dedans qui veut. Et je m'explique dans quelques secondes. Parce que là-dedans, tu vas... t'as des compétences d'équivalent de paramédic. C'est-à-dire que quand t'arrives sur un sauvetage, t'as exactement, et même peut-être même plus de compétences qu'un paramédic. Tu fais des intraveineuses, des stabilisations, tu peux donner des médicaments, t'arrives avec une tonne de médicaments. Mais t'es également quelqu'un qui va avoir une formation d'escalade sur glace, de parachutisme, tout ce qui est paroi, tout ce qui est également sauvetage en forêt, tu sais, de la survie en forêt, ce genre de choses-là. C'est extrêmement large et polyvalent, et ça se réserve à un groupe d'élite de quelques dizaines de militaires au Canada. Puis moi, ce qu'on m'a donné comme la totale hier, parce qu'on m'a pas garoché là pendant 3 semaines, on m'a dit, Fred, tu vas commencer par faire les tests physiques. Mais quelle erreur!
Tu m'as texté hier matin quand même assez de bonheur,
oui.
Puis je t'ai dit, oh boy, ça me remémore quand on avait fait les tests à la réserve navale, que je faisais mon fin finot, on a fait peut-être 2-3 tests.
C'était des tests d'entrée, je pense.
Sortais de là, puis vous l'auriez passé là selon... Pas mal, là, c'est correct, c'est dans la moyenne votre affaire, puis je suis sorti de là dans le char, j'avais des étoiles, mon gars, puis j'ai vidé ma bouteille d'eau dans le temps de le dire.
Mais ce qu'on avait fait à réserve naval, là, c'était des tests d'entrée.
C'était pour les bébés, ça?
Ben, disons pour l'entrée, c'était la base. Mais moi, ce que je t'allais faire, là, c'est des tests d'élite.
Oh.
Et ça, ça prend des fois des mois, sinon des années de conditionnement physique avant d'entrer là-dedans. Et c'est pas pour dénigrer ça, c'est pour expliquer que si maintenant t'es dans le bois, puis il faut que tu ouvres quelqu'un sur tes épaules, puis il faut que tu le tires pendant des kilomètres de temps, faut pas que tu sois une feufiotte, il faut que tu sois capable de traîner les charges. Et moi, mon highlight du matin, là, c'est qu'à un moment donné, on m'a dit, tu vas faire du tapis roulant. Le minimum, OK? Le minimum pour être considéré et non pas engagé dans l'escouade de sauvetage et tout ça, là, c'est considéré. Il faut que tu fasses 21 minutes de tapis roulant avec un certain dénivelé, certaine vitesse. T'es pas à course, c'est marche rapide, mais surtout avec un pack-sac de 55 livres.
Ah!
Et ça, c'est surprenant comment ça brûle un homme. Et là, j'ai commencé tout. Les premières minutes telles que telles, là, à un moment donné, le palier, il lève. J'étais avec, entre autres, un monsieur Rasmussen, Marc-André, qui était au niveau de la préparation physique. Puis là, il me craque. Écoute, il a tiré tout ce qu'il pouvait tirer de moi. Mais au bout de 12 minutes, là, je wobblais sur le tapis roulant de gauche à droite. J'ai dit non, ça va être bon, on arrête ça là. Mais les meilleurs, là, ils font du 55 livres en arrière, pack sac, 28, 29, 30 minutes. Donc, même si tu passes le 21 minutes, t'es considéré, t'es pas engagé nécessairement pour autant.
Donc, théoriquement, t'aurais même pas passé à l'étape suivante.
Non, même pas. J'aurais pu rester peut-être des forces, mais j'étais même pas assujetti à. Puis après ça, je m'en vais en gymnase, puis je traînais des poids. Ça, je l'ai réussi, mais dépasser mon temps. Puis là, après ça, briefing. On met un petit saut de technicien en sauvetage. On présente un hélicoptère Griffon. Hey, c'est des bêtes, là. C'est des bêtes, hein, s'il vous plaît. On m'explique comment ça marche. As-tu déjà fait d'hélicoptère?
Non, je pense pas.
De un, je recommande à tout le monde de faire un tour d'hélicoptère dans une vie, c'est merveilleux. Mais de ressentir aussi un jour le feeling d'être en dessous d'un hélicoptère en marche. Tu sais, un hélicoptère qui descend au-dessus de toi, là, on voit dans les films là, que ça, le vent, la force de pousser que ça a, c'est phénoménal. Il n'y a rien qui accote ça, tu sais. Et dans mes trips qu'on m'a faites, on est allé un moment donné quelque part à la baie, dans une ancienne carrière. On s'est... dans le scénario perdu là, fallait signaler notre présence aux militaires en avion qui nous cherchaient comme si on était perdu. Donc, on m'a montré comment faire un feu, mais tout le feu contraire d'un feu de banlieue. Tu sais, quand tu fais un feu en arrière de chez vous, tu veux pas faire chier les voisins à faire de la boucane, tu veux un petit feu clean, pas trop haut. Là, c'était le contraire. C'était ramasse le plus de sapins que tu peux, fais-toi un tipi, telle technique, puis quand tu vas l'allumer, il faut que ça fasse le maximum de boucane le plus vertical possible pour qu'il voit ta présence le plus rapidement possible. C'est niaiseux.
Ça aurait été le moment idéal pour mettre ton huile à moteur. Là.
Exactement. Okay. Si t'en as, amène-la. On fait ça, et là, évidemment, l'hélicoptère Griffon vient me chercher. Mais là, la parenthèse, c'est que l'hélicoptère, là, il lande pas. Il atterrit pas, là. Il dit pas, Monsieur Gagné, on vous attendait, voici des sandwichs. Non. Il y a un gars qui descend entre eux, il est chez moi peut-être 250 pieds dans les airs. Il descend entre eux, et là, il vient me voir, il dit, t'es-tu prêt? Oui, j'avais été briefé sur ce qui allait arriver, évidemment. Et il me passe autour de moi une ceinture, pas un harnais, une ceinture très forte avec un mousqueton, mais une ceinture plus épaisse que ce que vous mettez comme ceinture, mais quand même. Et il met ça autour de la tête, il regarde le gars en haut, il fait un pouce, et là, il y a un ingénieur en haut, un ingénieur de vol, c'est lui qui s'occupe du treuil, puis il remonte le gros en haut. C'est un feeling qui est incroyable, parce que là, tu remontes dans l'hélicoptère qui est en vol, et là, pendant ce temps-là, l'hélicoptère décolle, moi, je suis attaché, il me lève dans les airs, comme dans les films, comme dans les sauvetages. Et là, tranquillement, on décolle, on se tasse, on s'en va, on s'en retourne tranquillement vers la base, il me lève, jusqu'à temps que je retourne à la hauteur de l'hélicoptère, mais là, tu vois l'hélice, tu vois, l'hélicoptère est en mouvement, puis là, tu regardes en bas, tu dis, baptême commence à être haut, et là, eux autres, ils ont leur séquence. Le gars qui m'a sauvé en bas me sécurise, le gars, l'ingénieur de vol, va me prendre, me met dans l'hélicoptère, m'attache, vérifie si je suis correct et tout ça, et là, à ce moment-là, devient un peu le nanan de ma journée, c'est-à-dire de me promener en hélicoptère. J'étais allé virer au-dessus de la station ici. J'étais allé virer au-dessus de ma maison, voir un peu de quoi ça valait à mon entrée d'asphalte. C'était génial. C'est de voir la polyvalence de ces gens-là. Et souvent, ce qu'ils expliquaient, c'est que je pense pas qu'eux vont s'en vanter, mais c'est vraiment un corps d'élite. Parce que ils sont jamais dans des belles situations. Ils s'en vont pas à Old Orchard Beach chercher quelqu'un qui se fait dorer sa plage. C'est tout le temps des situations où quelqu'un est fourré à quelque part, OK? Fait que des fois, ils volent de nuit. Des fois, ils volent quand il fait pas beau. Des fois, quand il vente. Ils trouvent quelqu'un au sol. Ben souvent, c'est pas parce qu'il est là parce qu'il veut. C'est parce qu'il est mal pris. Fait que des fois, il faut qu'il administre des soins. Ils ont des grosses valises. Mon homme, ça pèse avec X nombre de médicaments. Puis là, il faut qu'il établisse un diagnostic. C'est pas des neurochirurgiens, mais c'est paramédic. Et là, bâton, t'es en train de perdre la vie. Ben, ils peuvent te mettre un genre d'intraveineuse. Mais mettons que t'es vraiment, vraiment à moitié comateux, là. Tes veines, là, ils sont plus là, là. Fait, sais-tu qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une drill. Et moi, je savais pas ça, mais ça a l'air que s'ils te trouvent pas à veine, ils m'ont montré ça. Il y a une petite drill de poche, petit trou dans l'épaule, ils te rentrent le soluté-là, puis ça réveille, ou du moins ça te sauve assez rapidement. Ce genre de choses-là. Donc, ils ont des compétences médicales. Tu sais, les gens flyés qui font l'escalade puis de l'extrême de survie, ils ont ces compétences-là. Tout ce qui tourne autour des hélicoptères, ils ont des compétences aussi. Ils sont capables de pogner des bateaux gonflables puis d'aller se promener chercher du monde en mer. Donc, c'est vraiment... Et les gars me racontaient ça, pas pour avoir l'air de faire pitié, puis il y a des filles également là-dedans. Une carrière là-dedans, quand tu te spécialises là-dedans, c'est 12 ans, parce qu'après ça, ton corps est fini reine. Il le disait bien honnêtement en disant, regarde, ça use. On saute en parachute régulièrement, on fait de l'avion, ça brasse. Quand on est dans les vraies missions, c'est jamais walk in the park. Là. T'amènes pas ta petite chaise à Dirondack. Là.
Est-ce que tu sais à combien de reprises ils peuvent sortir, exemple, dans une année pour faire des sauvetages comme ça?
C'est pas. Écoute, ils s'entraînent à tous les jours. Sûr. Parce qu'évidemment, il y a un nombre limité de gens, mais ils s'entraînent à tous les jours, non seulement sur la maintenance, mais également sur leur capacité. Mais oui, en région, j'ai pas le chiffre, puis je l'ai posé hier, merde, j'ai pas le chiffre. Mais il y en a, c'est pas à toutes les semaines, c'est à tous les mois ou à peu près qu'il va y avoir des opérations de sauvetage. Puis comme je te dis.
C'est quoi la situation la plus élevée qu'ils peuvent peut-être affronter? Je sais pas si vous avez eu le temps nécessairement pendant cette mission-là d'en parler, mais tu sais, une fois que ça, exemple, ça a été plus difficile qu'une autre.
Ben, je te dirais un exemple où il y a des gens qui peuvent être des randonneurs expérimentés ou des gens qui font du trekking ou n'importe quoi. Ils se vendent des genres de GPS de positionnement.
Ouais.
Et c'est comme ça, des fois, qu'ils vont réussir au moins à s'approcher de ces gens-là. Mais tu sais, c'est déjà arrivé un avion qui s'est écrasé dans le bois dans une zone complètement perdue. Puis là, faut que tu. Il y a des techniques pour repérer les avions, repérer les gens. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches-tu un avion qui est écrasé ou tu cherches plutôt des arbres qui sont renversés qui vont te mener à l'avion? Des conditions de sauvetage en hiver où les gars me racontaient, je sais pas si c'était dans leur formation ou dans la réalité, mais couple de gars qui se sont gelés les pieds, là, mais des affaires de moins 40, moins 50, moins 60, ou que coup de ton pied est gelé, il est gelé longtemps, il dégèle pas. Et je voyais des vidéos où ils vont faire une formation, tu sais. Quand t'es considéré pour faire ça, OK, là, c'est ce genre de groupe d'élite de sauvetage-là, les Sartec, ils t'envoient, je pense, au lac Jarvis, c'est-tu en Alberta ou en Ontario, et là, tu passes un genre de 10-15 jours, mon homme, avec un paquetage de 100 livres, à pas dormir, à être perdu dans le bois, à faire de la survie, de ci, de ça. Il y a des trainings après. C'est un périple qui est... C'est vraiment une vocation. Tu le fais pas pour l'argent parce que tu as ton salaire de militaire, probablement bonifié un peu, mais c'est vraiment des gens extrêmement spéciaux. Tes rencontres, ils ont l'air normal, mais de tout le champ de compétences qu'ils ont, puis il faut que tu prennes des décisions rapidement. Là, parce que tu gages là, principalement ce qu'ils font, c'est en hélicoptère, les griffons. C'est pas. Il n'y a pas un poste SO à tous les places, non? Fait que t'as le gars, le pilote, avec l'ingénieur, puis là, il gage un peu combien qu'on d'essence. Puis là, mettons, t'as 6 gars qui sont plantés à quelque part, faut que t'ailles secourir. Combien qu'elle rentre dans l'hélicoptère? J'ai eu le temps de faire une intervention de sauvetage au sol? Est-ce que je me fais parachuter du matériel médical puis je fais ce que j'ai à faire? Donc, il y a beaucoup... La forme physique est exceptionnelle, mais il faut que tu sois capable d'établir une liste de priorités logiques pour pas planter ton hélicoptère, de manquer de gaz, sauver ton monde. Combien tu penses sauver? Combien tu te mets pas dans le trouble, toi et tes collègues? C'est vraiment incroyable. Je prends le temps rapidement de nommer une couple de personnes avec qui j'étais hier. Principalement les sergents, M. Demers, Alexandre Demers et Dominique Lavallée, qui ont eu la patience de m'endurer puis de me voir poser 1000 questions. Sergent Anna Comoza également, quand on était dans le bois. Caporal, chef Simon-Luc Lavoie. L'adjudant Éric Perrière, le sergent Martel également. Pilote Délico, capitaine Tremblay, capitaine Plante, qui m'ont fait une maudite belle ride. D'ailleurs, j'ai extrêmement apprécié. Lieutenant Paris également, qui était là. L'ingénieur de bord qui, lui, a réussi à me remonter avec le treuil, sincèrement. Préparateur, M. Rasmussen également. Tous ces gens-là ont été incroyables. Donc, moi, je le dis, j'ai été un privilégié. Je m'en vante, puis je sais que c'est pas tout le monde qui va voir ce trip-là. Mais quand vous allez voir des militaires avec l'hélicoptère Griffon faire des sauvetages en forêt, en mer, aller chercher des gens qui se sont malheureusement placés en fâcheuse position, sachez que ces gens-là sont la crème de la crème dans le sauvetage. Alors, c'est vraiment un monde spécial qui mériterait un peu plus de notoriété, d'ailleurs.
Mais ils seront là en fin de semaine?
Je pense que oui.
Évidemment, les Griffons sont toujours en démonstration. Vous allez en voir au cours du spectacle aérien international de Bagotville. Les gens sont là aussi pour répondre aux questions du monde.
C'est correct de triper ces avions parce que le gros show, il est très avion. Mais si vous avez la chance de voir des gens qui sont habillés avec des suits, là, des One Piece orange, c'est eux autres. Ça, c'est... à la blague, c'est parce qu'aux États-Unis, les gens avec des One Piece orange, souvent, c'est des détenus.
Oui, c'est vrai.
Puis quand ils vont faire des air shows, tout ça, ils sont confondus avec des détenus.
Fait gens... qu'eux autres, contrairement aux pilotes d'avion, ils gardent pas leur chienne pour sortir le soir après le spectacle.
J'en ai jasé avec eux autres. J'ai jasé avec eux autres et on a bien ri. Effectivement. Ah, okay. On va parler de cette culture-là qui s'estompe en passant.
Ah ouais?
Mais eux autres, ils vont pas d'un bar avec leur One Piece orange pour aller cruiser. Ça vaut ce que ça vaut.
Ça s'estompe, ça.
Quoique hier, on se promenait sur la base, on est allé manger dans la cafétéria, pis ça. Puis les gars se promenaient, puis j'étais avec eux autres. Moi, j'avais l'air de rien, j'étais bien civil. Puis ça n'a pas été trop long qu'il y avait souvent des cadets ou des civils qui voulaient des photos avec eux autres. Donc, ça vaut son petit pesant d'or aussi. Mais oui, la culture du petit blouson militaire, là, ça existe encore peut-être un peu.
Dans les bars d'hôtel.
Surtout pour les gens de l'extérieur qui viennent d'un show à l'extérieur, là, de dire, oh, tant qu'à sortir un peu, m'a gardé soit ma
ça m'avait marqué,
ma petite coiffe de pilote.
Je l'ai dans la tête. J'étais à Tourabière il y a quelques années. Puis visiblement, c'était des gens qui étaient hébergés à l'hôtel Chicoutimi, pas trop loin, une équipe américaine. Puis tu sais, c'était le jour, le festival, le spectacle aérien. Fait que le soir rendu à 9, 10, 11 heures, là, il y avait le temps de sortir en masse, puis il y avait le temps de se changer aussi. Mm-hmm. Et c'est probablement ce qu'ils avaient fait. Parce que quand ils ont commandé leur bière à côté de nous autres, ils étaient avec leur chaîne de pilote grise, bien identifiée avec leur nom et tout ça. Ils sentaient le parfum, mon gars. Ça sentait pas le kérosène même. Ça sentait gros parfum, le gel dans les cheveux. Donc, il s'était lavé et il avait remis la chienne pour sortir pour être sûr de ne pas se faire manquer.
Mais je te confirme que ma gang hier, c'est ultra modeste. Des gens ultra simples. Mais sincèrement, je me sentais tellement petit parce que je fais 235 livres. J'ai échoué des tests physiques lamentablement. Puis ils m'expliquaient toutes les affaires. Là. Il y avait tellement de choses qui me rentraient dans la tête. Alors, remarque qu'eux autres, c'est un processus d'une couple d'années. Là. Moi, j'ai eu un crash course d'une journée.
Ouais, pas entraîné.
Mais d'hélicoptère, faites ça au moins une fois dans votre vie. Puis si vous avez la chance de vous informer là-dessus, c'est vraiment incroyable. Donc, salutations aux gang de l'escadron. Si je me trompe pas, c'est 439 le chiffre.
Ben, par texto, justement, bravo pour ta description. L'escadron 439 et les techniciens recherche et sauvetage. J'ai servi de 2008 à 2012 sur le 439. Ce fut une excellente expérience. Donc, voilà. Salutations à tous les militaires et ex-militaires. 95.7 Kick.